18h, c'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure des news, c'est l'heure des apéro news et c'est...
Super délire, super radio, yes, yes, yo, yo.
Des infos sur les groupes, des dates de concerts, des interviews, de la zik, de la bière...
Qui veut une pression ?
Ah, moi j'en boirais bien une, moi aussi.
Et surtout, des cadeaux.
Un cadeau pour moi ?
Ouais.
Et qu'est-ce que c'est ?
Ah, je te le dis pas.
Allez, qu'est-ce que c'est ?
Surprise, non, non.
Tout ça, c'est sur 666.
666.
Tu parles d'un nom affreux ?
Un nom affreux ?
Je voulais dire un nom affreux donné sur le trottoir tellement il est beau.
Avec Audiothèque.
Salut, salut, c'est Max pour les Apéro News sur Radio 666, 99.1 FM à Caen et radio666.com partout dans le monde. Sauf quand le site web bug, sachez qu'on est sur le coup et que très prochainement, vous allez pouvoir avoir accès à votre radio préférée via radio666.com. Nous sommes à Hérouville-Saint-Clair en direct, mais alors cette fois-ci à Hérouville, non pas dans les studios de 666, mais à la Fabrique du Patrimoine. On n'est pas très loin, on est voisins. Et pour nous accueillir, il y a Karine Lepetit, responsable de l'ethnopôle de la Fabrique de Patrimoine. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir aussi Elena Tataruch, je prononce bien ? Non ?
Tataruch.
Voilà. Bon, j'aurais dû mettre un K au lieu d'un H. Elena Tataruch, chargée de mission patrimoine immatériel et ethnologique à la Fabrique de Patrimoine en Normandie. Tout va bien ?
Tout va très bien.
Tout est prêt pour le festival de cinéma ethnographique Altérité ?
Oui, 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 tout est prêt. On est dans les dernières finalisations.
Ce que nous confirme aussi Jean-Claude Lemenuel, directeur du FARM, et surtout ici ce soir avec nous autour de la table ronde que nous a préparée la Fabrique de Patrimoine en Normandie. Vous êtes ethnomusicologue,
voilà, Jean-Claude. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, effectivement, je suis directeur du FARM dans mon métier au quotidien, mais initialement, j'ai fait une formation d'ethnomusicologue. Je pense qu'on a déjà utilisé 4 fois le terme ethno en moins de 2 minutes. C'est un record.
Oui, et je crois que j'ai déjà d'ores et déjà trouvé le mot du jour, ethnomusicologue. Quand on aime beaucoup la musique, évidemment, moi, c'est le mot que je vais le plus retenir. Ce soir, avant de m'endormir, je vais essayer de réviser la définition. Quelle est la vôtre, Jean-Claude
Lemenuel ? Alors, la définition, c'est en fait étudier les peuples à travers leur musique, puisque la musique, en fait, est un fait sociétal significatif qui dit, au-delà même du phénomène de son, plein de choses sur la vie des gens à travers les objets, les instruments, la manière dont la musique s'inscrit dans la vie des gens. Donc en fait, on peut étudier les peuples par le prisme de la musique.
Nous sommes sur Radio 666, une radio, vous l'aurez remarqué, plutôt rock. Qu'est-ce que ça indique sur nous d'aimer autant le rock ?
Oh ben non, mais moi je suis tout aussi concerné, hein, je suis tout aussi concerné par le rock que par ce sujet-là. Non, je pense que mais faut juste pas oublier que quand on parle de contrées, comme on va parler, qu'on parle de la Mongolie, qu'on parle de Corée, enfin bien sûr que ce sont des sociétés dans lesquelles les traditions musicales ancestrales sont préservées, mais il y a des groupes de rock, il y a des groupes, enfin je veux dire c'est pas et ces groupes sont emprunts de ces cultures traditionnelles d'une manière ou d'une autre. Mmh. C'est tout l'intérêt de la chose. Donc là aussi, l'ethnomusicologue, il est à cheval sur ces deux sujets.
Bien. Le Festival de cinéma ethnographique Altérité, c'est les dates, qui peut me les rappeler ?
Du 17 au 19 mars, parce voilà. Que initialement c'était jusqu'au 20 mars, mais finalement on a eu une annulation pour la dernière journée.
Et le thème de cette année, quel est-il ? Est-ce qu'il y en a un mis en avant ?
Oui, tous les ans, en fait, c'est un festival thématique. Donc, on change de thématique chaque année. Et cette année, il s'agit des chamanismes au pluriel, puisqu'on va vraiment prendre le temps d'explorer la diversité des chamanismes à travers le monde et à travers des communautés qui l'appréhendent de façon différente, et voire même des ethnologues qui l'appréhendent de façon différente.
Ce soir, on va prendre le temps aussi de détailler ce programme que vous nous avez préparé, Altérité Festival de cinéma ethnographique, qui a donc pour thème cette année les chamanisme, mais c'est évidemment en début d'Apéro News, l'heure du traditionnel album 666 de la semaine. Vous avez pu commencer à le découvrir hier grâce à l'ami Seb. C'est un album de Road TV. Il s'appelle, comment cet album ? Il s'appelle Tales of Torment. Vous avez pu écouter hier Ready to Dive. Et bien pour ce soir, Roxane nous a choisi Slashing. Slashing de Hot TV, cet extrait de leur nouvel album. Slashing, c'était un extrait de l'album Tales of Torment de Hot TV, album 666 de la semaine que vous pouvez continuer à découvrir dès demain, toujours en début d'Apéro News. Et nous sommes ce soir, je le rappelle, en direct, ça c'est comme d'hab, mais non pas en studio, mais à la Fabrique de Patrimoine en Normandie qui nous accueille à Hérouville-Saint-Clair. On n'a pas loin à faire, hein, quelques mètres et puis c'est fait. Enfin, je dis ça, c'est facile. Moi, c'est pas moi qui ai monté le matériel de la radio. Je profite d'ores et déjà de remercier Philippe et Roxane pour avoir tout préparé. Moi, c'est confort. J'ai plus qu'à me poser sur une chaise et puis à questionner comme il se doit nos trois invités. Que dis-je, quatre ? Il y a un quatrième invité qui nous a rejoint. Donc je rappelle déjà celles et ceux que j'ai présentés. Nous avons Karine Lepetit, responsable de l'ethnopole de la Fabrique de Patrimoine. Il y a Elena Tataruk, cette fois-ci il est bien prononcé, chargée de mission. Et puis Jean-Claude Lemenuel, ethnomusicologue. Oui, j'aime bien ce mot, ethnomusicologue. Et donc je propose de se présenter pour le quatrième invité.
Moi c'est Tite Fambucher, je suis en service civique à la Fabrique en ce moment et c'est dans ce cadre-là que je prépare le Festival Altérité aussi.
Quelles sont tes missions en tant que service civique ici ?
Moi je suis chargé des publics, c'est-à-dire que je fais l'intermédiaire entre la Fabrique et puis tous tous les invités qui vont venir au festival et je m'occupe aussi de la communication sur les réseaux sociaux. Voilà.
Qu'est-ce qui te semble intéressant ? Attention, elle est déjà difficile cette question-là. Qu'est-ce qui te semble intéressant au festival Altérité ?
Intéressant pour les chamanismes ? Eh ben, les chamanismes, c'est un sujet qui, voilà, qui je pense peut intéresser tout le monde parce que c'est un sujet qui permet d'aborder tous les pays du monde en même temps, de voyager un peu partout dans le monde, de se confronter à plein de cultures différentes. Donc de ce point de vue-là, ça peut être très intéressant, je pense.
Toi, est-ce que tu as été amené à t'intéresser un peu plus à une partie du programme, la partie cinéma ou la partie musique?
Oui, j'ai beaucoup travaillé sur notamment le film Ayahuasca. Voilà, donc c'est un film qui sera présenté en réalité virtuelle avec des casques VR Oculus qui seront mis à disposition à la bibliothèque Alexis de Tocqueville tout le long du festival, donc du jeudi au samedi. Et les gens pourront visionner ce film-là, Ayahuasca. Donc c'est un film qui mime les effets hallucinogènes de cette plante, l'ayahuasca, qui est utilisée lors de rites chamaniques.
Est-ce que tu l'as testée, cette plante ?
Alors, moi, je ne l'ai pas testée. Par contre, j'ai testé les casques et...
bien vu.
Ça fait de l'effet. Hein, voilà, ça mime. Même si je n'ai pas utilisé la plante, on se rend bien compte, je pense, des effets que ça produit.
Ça se passe, le festival Altérité, à la fois à la bibliothèque Alexis de Tocqueville et au Cinéma Luxe. Vous y avez un peu vos quartiers au Cinéma Luxe ?
Oui, les après-midi en général se déroulent à la bibliothèque Alexis de Tocqueville, dans l'auditorium, et les soirées au Cinéma Luxe.
La soirée dont tu parlais, rappelle-moi ton prénom.
Titouan.
Titouan, c'est une soirée qui a lieu quand ?
Alors, c'est pas une soirée, en fait. Ça sera, en fait, les casques qui seront à disposition tout le long du festival, à partir du jeudi 16h.
Okay,
à la bibliothèque.
On peut en profiter jeudi 17 mars, mais aussi vendredi 18 ou samedi 19 mars.
C'est à partir du jeudi 14h, pardon, et on peut en profiter tout le long du festival. Ça sera à disposition, il y aura des gens, des médiateurs pour
à consommer sans modération.
Consommer sans modération, exactement.
Entrée libre, donc, oui, c'est à la bibliothèque. Pour le cinéma, on est aussi sur... là,
une
on est peut-être sur un progrès.
3 euros, donc attractif, très, très raisonnable, voilà, pour la soirée, à la fois la projection et la rencontre avec les invités.
Ok. Par quoi commence-t-on jeudi 17 mars à la bibliothèque Alexis de Tocqueville ?
Bien justement, malheureusement, on a eu une annulation liée à la non-venue de Charles Stepanov, qui était pourtant très très attendu.
Il devait présenter son livre « Voyager dans l'invisible ».
Voilà, « Voyager dans l'invisible ». On a beaucoup entendu parler de lui ces derniers temps pour un autre livre qui est « L'animal et la mort ». Donc c'est... Bon, quelqu'un qu'on aurait beaucoup, beaucoup aimé pouvoir accueillir, mais on est vraiment rattrapé par l'actualité, c'est-à-dire qu'on aborde là un sujet qui prend racine en Sibérie, et on a beaucoup de chercheurs qui sont très impliqués, très affectés par le conflit, par la guerre en Ukraine, et c'est le cas de Charles Stepanov, donc qui a au dernier moment décidé de bouleverser son emploi du temps et donc d'être en soutien aux chercheurs, notamment ukrainiens et russes, qui vivent cette situation dramatique. Mais c'est aussi rappeler que l'ethnologie, hein, le sujet du festival, le cinéma et l'ethnographie, ça se vit au présent. Et donc on est en prise effectivement avec ce type d'actualité, cette fois malheureuse. Et donc Charles Stepanov ne sera pas là.
Donc au lieu d'un programme qui démarre à 16h, on démarre à 17h30, mais toujours à la bibliothèque Alexis de Tocqueville.
Oui, mais on accueille quand même le public à partir de 14h. Oui. Donc Titouan sera là, et nous aussi, pour faire découvrir le film Ayahuasca.
Il y a suffisamment de casques ?
Oui, il y en aura 3. Donc,
chacun d'être patient s'il y a des embouteillages.
Voilà.
Et manifestement, il faut pouvoir supporter les 20 minutes, donc peut-être tout le monde ne restera pas 20 minutes.
2-3 minutes, je pense que ça sera déjà bien suffisant.
Et c'est vraiment une occasion pour le grand public de découvrir les effets hallucinogènes de l'ayahuasca sans en faire la propagande, puisque évidemment c'est strictement interdit en France, hein, même si c'est autorisé pour des raisons rituelles au Pérou, je crois, et au Brésil. Mais en France, c'est strictement interdit. Et c'est pas uniquement récréatif, bien loin de cela, puisqu'on est vraiment dans un rite curatif. Donc c'est aussi une diarrhée, des vomissements. Enfin voilà, donc là, on en a juste les effets récréatif et on aimerait bien aussi que les gens qui testent ces superbes expérimentations de casques VR puissent aussi s'imprégner du contexte culturel dans lequel est ingérée cette potion magique.
Oui, c'est pas juste ludique, il s'agit quand même d'apprendre des choses.
Ah oui, ça permet vraiment de se confronter à ce rite qui est un rite culturel. C'est pas seulement pour expérimenter les effets récréatifs visuels, oui, c'est vraiment pour se mettre dans la peau de ces gens qui pratiquent ce rite.
Et ce rite, il consiste à quoi précisément, à amener de quel point, à quelle étape?
Le chaman entre en relation avec les esprits par le biais de l'ayahuasca, mais pas de façon systématique. C'est-à-dire que ça, c'est l'image qu'on en conserve en Occident, où on met la transe, l'ingestion de substances psychotropes au centre de rites chamaniques, et en fait, c'est un des éléments du rituel, et qui peut même disparaître. C'est-à-dire que, même en Amazonie, on peut, avec des chamans qui sont des experts, ils peuvent entrer en contact avec les esprits, qui est leur mission principale, donc ce sont les experts de l'entrée en contact avec les invisibles, par le biais du tabac. Voilà, ils n'ont pas besoin ni de ce qu'on considère nous comme étant la transe, ni de l'ayahuasca, nécessairement.
Oui, il faut juste rappeler que, effectivement, le principe de la transe, du phénomène de transe, c'est un phénomène physique et psychique qui n'est pas lié à l'usage de plantes psychotropes de manière systématique. Il y a une force d'abord, c'est d'abord la force de la personne et sa capacité à être le réceptacle de quelque chose. L'usage de la plante psychotrope, voilà, n'est qu'un véhicule. C'est pas une fin en soi. L'usage de cette plante n'est pas une condition absolue à la transe.
Est-ce que la musique peut être
absolument? Alors la musique est un véhicule également. On y viendra tout à l'heure. On a énormément de musique dans les rites chamaniques qui peuvent être des choses très minimalistes. On n'est pas forcément sur des choses extrêmement développées, mais en fait il faut oublier le mot musique. Il faut prendre la notion de phénomène sonore. C'est plus juste. C'est-à-dire qu'évidemment, ça prend la forme de ce qu'on appelle communément la musique, mais pour un chaman, c'est pas de la musique au sens où on l'entend nous. Il s'agit bien d'un phénomène sonore qui est un véhicule de quelque chose.
Alors, celui qui est un phénomène sonore aussi, c'est le brame. Je vois qu'il en est question du brame du cerf lors de la proposition qui est faite à la bibliothèque Alexis de Tocqueville de 17h30 à 18h. Jeudi, par hasard, Roxane, on n'aurait pas un bruit de cerf, de brame du cerf. On n'a pas ça en stock, non, mais ne t'embête pas pour ça. Mais voilà, j'aurais dû mieux préparer en amont l'émission et je pense que voilà, ça aurait surpris plus d'un. Mais alors, pourquoi donc le brame du cerf dans le programme?
Donc, le brame du cerf, la découverte du brame du cerf était liée à l'intervention de Charles Stepanov, puisqu'on va avoir des interventions d'ethnologues qui ont des points de vue différents aussi sur des chamanismes en fonction de leur terrain, hein, en fonction de leur terrain local, mais aussi un avis parfois très tranché sur l'autorisation ou non de faire venir en fait en Occident ce rite chamanique. Donc en fait, pour Charles Stepanov, on est vraiment dans une logique colonialiste en fait, qu'on continue à prendre chez les autres et à ne prendre que ce qui nous intéresse et à rejeter. Par exemple, dans le néo-chamanisme, on va mettre beaucoup en avant la transe. Pour lui, la transe, c'est vraiment secondaire. Ce qui compte, c'est les chants, les paroles, ce qui permet véritablement de rentrer en contact avec les esprits. Donc on va en fait complètement transformer et de façon perdre tout son sens. Et par contre, ce qu'il suggère, lui, c'est de développer l'imaginaire des Occidentaux avec ce qu'on a sous la main, sous les oreilles, sous les yeux, et donc la possibilité de s'émerveiller, notamment du brame du cerf, qui peut être vécu dans une pénombre, et donc là aussi développer l'imaginaire et aller rechercher des ressources en fait locales pour s'émerveiller et pas forcément et rentrer en contact avec la nature et pas nécessairement délocaliser des phénomènes. Mais on a des ethnologues qui pensent tout autrement.
Et parmi nous, autour de la table, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu de près le brame du cerf?
Oui.
Oui, lors d'une promenade en forêt?
Eh ben, oui, en fait, je fais très vite, mais voilà. En fait, c'était dans un...
Vous avez juste eu le son? Vous pas eu...
Ah non, j'ai eu l'image avec.
L'image aussi.
J'étais dans un mariage où je m'emmerdais littéralement dans une pleine campagne, et à la table, il y avait quelqu'un avec qui je pensais que j'allais absolument...
Est-ce que le mariage a duré?
Bah, le mariage a duré, mais on est parti justement. Mmh. Et en fait, j'avais en face de moi quelqu'un à table avec qui je pensais que j'allais pas nouer de contact. Et c'était un musicien, un joueur de cor, et qui avait fait toute la vénérie, le travail autour de chasse à cou. Alors, je me dis, oh, pff, c'est bon, voilà. Sauf que ça a fini par me passionner. Et qu'en fait, on est parti. Il m'a emmené en forêt. Et en fait, il m'a montré comment, effectivement, on débusquait un fer et comment on obtenait ça avec sa pratique qui n'est pas un homme de rite, c'est juste un type qui a été initié. Je me suis dit quand même en revenant qu'il fallait toujours se méfier de soi-même des a priori qu'on pouvait avoir. Parce qu'en fait, ce type en début de soirée à qui j'aurais presque pas prêté oreille m'a finalement offert une expérience absolument magnifique. Il était 4h30 du matin. On est bon. Et un peu arrosé quand même, mais malgré tout, ça reste une expérience.
La rencontre autour du Brame du Cerf dans le cadre du festival Altérité, c'est ce jeudi de 17h30 à 18h à la bibliothèque Alexis de Tocqueville. Et vous avez fait appel pour ça à Aurélie Desvages l'aînée de la Maison de la Forêt, à l'Office de Tourisme Isigny-Oma. Ça veut dire aussi que le festival Altérité, même s'il est basé à Caen, avec le cinéma Lux et la bibliothèque Alexis de Tocqueville, il y a quand même des ponts, des liens qui se font avec d'autres structures dans le Calvados ou ailleurs.
Toujours. À chaque édition, on fait attention à ce qu'il y ait un ancrage local, à faire un écho, à ce qu'il y ait un écho. L'année dernière, par exemple, où il y a 2 ans, on parlait des liens avec la nature. On avait fait un partenariat avec le CPE, le Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement. On cherche toujours à ce qu'il y ait une résonance, puisque l'ethnographie, c'est le lointain, mais c'est aussi le lointain qui permet d'éclairer le proche. Donc, on a des intervenants. Là, on a une ethnologue russe, Ksenia Pimenova, qui vient de Belgique. On a une ethnologue qui vient d'Aix-en-Provence. En tout cas, qui nous font part d'expériences lointaines, mais toujours on les met au regard avec le proche.
On va faire une pause dans ce programme avec un coup de projecteur fait à rock. Cette semaine, il y en a 2, et notamment un album d'Ubik, c'est facile, ça s'écrit pareil des 2 côtés, U-B-I-K. Et on a choisi avec Roxane pour ce soir le titre Dan June. Alors là, ce soir, il n'y a pas de coup de projecteur fait un rock à gagner, mais il y aura quand même des cadeaux ce soir dans les Apéro News. Alors restez à l'écoute, d'autant plus qu'on vous parle du festival Altérité. C'est un festival à ne pas rater qui démarre très vite. C'est dès jeudi. Ubik, tout de suite avec Dan June. We'll be right back. c'est une guitare sauvage sur 666. On vient d'écouter le titre Dan June d'Ubik. Ubik, il y aura un autre coup de projecteur fait un rock dans quelques minutes. On est toujours en direct et depuis la fabrique de patrimoine en Normandie à Hérouville-Saint-Clair pour parler du festival Altérité. Un festival de cinéma ethnographique, mais pas seulement de cinéma ethnographique, Karine Le Petit.
De cinéma et d'ethnographie, parce voilà. Qu'on veut mettre au même niveau les projections de films ethnographiques, mais aussi les invités, parce qu'on peut très bien avoir des interventions sans film. Et d'ailleurs, ce sera certainement le cas de Jean-Claude Lemenuel, qui nous présentera beaucoup, de nombreux extraits de films, mais sans avoir besoin nécessairement d'un film.
Jean-Claude Lemenuel, ethnomusicologue, qui sera donc présent ce jeudi soir au Cinéma Luxe à Caen pour la projection du film Souvenir de Quantec. Est-ce que je prononce bien ?
Oui, alors on a des soucis avec les films. On avait des projets, mais on ne retrouve plus les ayants droit. Ah. Voilà. Donc en fait, on a transformé ça en quelque chose d'encore mieux finalement, de beaucoup plus varié. C'est-à-dire qu'on va vous présenter des extraits différents.
Voilà, en fait, ce qui s'est passé, donc initialement, parce qu'il y a très peu de films sur le sujet qui va nous intéresser, qui est le pansori. Le pansori, si je voulais résumer, c'est un art lyrique populaire coréen qui a des racines chamaniques. Voilà, donc pour résumer, je pourrais en parler plus longuement, mais juste pour dire ça. Et que, en fait, étant donné qu'on n'a pas pu avoir le film, j'ai transformé la chose en conférence avec un grand nombre d'extraits vidéo pour le public, parce que sinon c'est un peu difficile quand même. Un grand nombre d'extraits vidéo qui ne remplaceront pas le film Souvenir, mais qui viendront quand même étayer le propos et éclairer le propos à certains endroits, sans doute plus que n'aurait fait le film. Bon, on n'est pas sur le même sujet. Et donc cette conférence, elle va se passer en deux parties. Il y aura une première partie sur, parce que on est sur quelque chose qui est de deux ordres, c'est-à-dire dans un premier temps quelque chose qui va relever de racines chamaniques, et dans un deuxième temps quelque chose qui est une forme, qui est une performance artistique. Donc là, on est à cheval sur deux choses, mais qui sont parfois très très liées, pas seulement en Corée, hein, de toute façon. Et donc, on va ouvrir cette conférence sur un travail vraiment autour du chamanisme et de la notion de chaman, avec les mudang. Les mudang, ce sont les chamans de Corée, voilà, qui sont principalement des femmes. Ça, c'est aussi, il y a quelques hommes, mais voilà, les mudang sont essentiellement des femmes. Pour permettre au public de comprendre comment est construit le chamanisme en Corée, sur quoi il repose et quel est le rôle de ces mudang. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans l'histoire de la Corée, avec tout ce qu'elle a connu de tumulte entre l'occupation japonaise, le soutien américain, l'invasion russe, les dictatures, tout ça a finalement véritablement influé sur l'esprit des Coréens, et il y a des choses qu'on va retrouver dans le chamanisme. Par exemple, beaucoup de d'esprits sont des esprits mâles, et certaines chamanes disent que, en fait, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de morts avec la guerre de Corée et les autres conflits, et que donc il y a beaucoup d'esprits, et que voilà, il faut s'accorder les biens de ces esprits. Donc on va rentrer un peu dans cet univers des mudang, de comment elles opèrent, d'où elles viennent. Certaines sont ce qu'on appelle des inspirées, c'est-à-dire elles deviennent mudang par affinité, par envie, et d'autres sont des héréditaires, c'est-à-dire qu'elles sont effectivement mudang par filiation. On verra un petit peu ça dans la première partie, comment opèrent ces mudang. Et dans la deuxième partie, on va passer sur le pansori, qui est un art musical et théâtral très très peu connu. Il y a eu un seul concert de pansori en 30 ans en Normandie. Voilà, il y en a un seul. Mmh. Voilà. Il n'y a pas d'artistes de pansori qui résident de manière permanente en France. Ils sont presque tous en Corée. Il y en a un peu dans les autres pays, mais d'abord, ils sont très peu nombreux. C'est un art compliqué, puisque les pièces qui sont interprétées durent entre 4 et 7 heures. Une pièce peut durer de 4 à 7 heures, et ils ne sont que deux sur scène. Un chanteur, narrateur, mime qui fait tous les rôles, et un percussionniste. Donc évidemment, beaucoup de candidats, peu d'élus. Voilà. Et donc, on rentrera dans cet art qui est très particulier, qui a des origines chamaniques, de par l'endroit d'où il est né culturellement, de ses racines populaires, mais également de la manière dont il est construit dans les chants, dans la prise de parole, dans la narration, dans les objets, et notamment la question de l'éventail, qui intervient aussi dans les pratiques chamaniques. Et donc, c'est une manière de montrer au public comment, finalement, des racines chamaniques et une histoire chamanique va trouver une transposition dans un art, une performance artistique qui aujourd'hui est redevenue populaire. Elle est classée, elle a été classée au patrimoine immatériel de l'humanité en 2008, je crois, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Mais c'est véritablement quelque chose d'assez méconnu. Les gens, enfin, voilà, je pense pas qu'il y ait grand monde qui connaisse le pansori, et c'est une possibilité de découvrir une performance artistique vraiment phénoménale, et qui a en plus, pour saveur, je dirais, d'être une espèce de satire d'un certain nombre de faits sociaux à travers des métaphores. Donc, on va parler de dragons, de ministres qui sont des poulpes, voilà, de tas de choses, voilà, des comparaisons. Alors, toujours un rapport très fort à la nature, aux animaux. Là aussi, on va rejoindre le chamanisme parce qu'effectivement, les deux choses sont intimement liées dans la culture coréenne.
Des extraits vidéo au Cinéma Luxe jeudi soir. À la radio, pas d'extrait vidéo, mais il peut y avoir des extraits sonores. Ça va ressembler un peu à un blind test. Il va falloir nous commenter, après avoir écouté quelques capsules son, ce qu'on vient d'entendre. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'écouter à l'instant, Jean-Claude Lemonel ?
Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de flûte taïgoum, donc un extrait de flûte solo taïgoum. La flûte taïgoum est une flûte traversière, qui est une, ici on l'entend pas beaucoup, mais qui a des sons, des timbres très très particuliers, et qui fait partie de l'orchestre Sinaoui, qui est un des instruments de l'orchestre Sinaoui, qui sont des orchestres qui accompagnent les moudangues dans leurs pratiques rituelles.
Bien. On passe au deuxième extrait. Bon, en principe, vous aurez tout bon. Ah oui. Vraiment, vous êtes censé faire un grand chelem. Au début, j'ai cru que j'avais fait tomber toutes les casseroles du placard, mais j'ai compris que non. Ah. J'avais tort.
Non, alors ça, c'est ce qu'on appelle le nonggak en coréen, qui est une des formes de musique coréenne où la percussion est véritablement au centre. Et le principe du nonggak, qui lui aussi a des origines, alors, chamaniques, mais de manière détournée, c'est-à-dire qu'ils sont des origines rurales, paysannes, donc ils font aussi appel à des rites. Et en fait, le principe de cet orchestre, c'est que si on écoutait la pièce jusqu'au bout, plus ça va, plus les instruments joue fort, plus les instruments jouent serrés, jusqu'à saturer l'air de timbre. Voilà. Qui est aussi, voilà, quelque chose qui... On parlait de musique comme véhicule, évidemment, ça met l'auditoire dans un certain état. Parce que quand on assiste à un concert de nonggak pendant une heure et demie ou deux heures, et que c'est une heure et demie, deux heures de percussion comme ça jusqu'à saturer l'air, on sort pas indemne, hein, quand même. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième extrait.
Ça laisse dans l'expectative quand on entend... ça, les percussions, et puis donc vous disiez, ça, on entend de plus en plus, c'est ça ?
C'est ça, de plus en plus fort, de plus en plus rapproché, jusqu'à saturer l'air totalement de son.
D'accord.
Son de percussion.
Ça me fait penser à certaines musiques de films qui sont, qu'on le mérite aussi d'enfermer un peu dans l'univers d'un film. Troisième son. Les instruments d'abord ?
Alors là, on retrouve à nouveau des percussions, donc avec un tambour à deux faces. Au tout début de l'extrait, on entend un tout petit claquement qui sont des claques. En fait, ce sont deux. Comment dire ? Comme des claves, en fait, qu'on plaques tout simplement qui sont des instruments qui donnent des temporalités. Et ce qu'on avait derrière qui ressortait énormément, il y avait des cordes mais on les entend moins, c'est le hautbois piri, donc qui est une sorte de hautbois mais alors qui ressemble pas du tout au hautbois classique ici, qui serait presque plus proche de la bombarde bretonne que du hautbois classique, qui a ce son très très strident. Et qui a pour particularité, c'est un instrument très difficile, mais on retrouve ça dans d'autres cultures, qui a la particularité de devoir être joué en souffle continu, circulaire. C'est-à-dire qu'effectivement, l'instrumentiste doit produire du son en permanence, c'est-à-dire qu'en même temps qu'il expulse, il doit à nouveau produire du son. Donc c'est une technique extrêmement difficile de respiration circulaire, qui quand on n'est pas habitué... Bah très vite, on peut faire une petite syncope. Hein.
Ces trois extraits sonores, on va les retrouver en vidéo.
Alors, on va en retrouver deux d'entre eux en vidéo. Voilà. Pas la musique de cours, je l'ai mis de côté.
On a parlé d'instruments de musique qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. C'est, j'imagine, aussi un intérêt de l'ethnomusicologie, c'est de découvrir que il n'y a pas juste la guitare, le piano, la batterie.
Non, alors il y a non seulement la diversité des instruments, mais ce qui est surtout intéressant, au-delà des instruments même, parce qu'effectivement, la diversité des instruments, je dirais, elle est presque évidente, chaque culture a utilisé, c'est la notion des timbres, c'est-à-dire que dans la culture occidentale, on perçoit la musique, effectivement, la mélodie va primer, c'est-à-dire que c'est une succession de sons. Et c'est un ensemble de sons qui va former un élément mélodique qui va faire qu'on va juger de la qualité. Dans la culture coréenne, chaque note a une identité. Donc on est à l'inverse. C'est-à-dire c'est pour ça que ces musiques sont comme ça. En termes de temporalité, on peut avoir juste une note.
Dans son intensité, on joue beaucoup sur l'intensité.
Dans son intensité, son timbre, sa durée. Et une note est en elle-même une identité. Donc en fait, on ne cherche pas à produire un résultat mélodique comme on cherche à le produire dans la culture occidentale, mais un ensemble de sons et d'identités sonores qui vont effectivement créer un état émotionnel, qui vont avoir un effet sur l'auditoire. Et on le retrouvera dans le pansori où effectivement les effets de voix sont absolument phénoménaux. On peut être sur le cri guttural, enfin des choses qui relèvent presque de l'insensé pour la pensée musicale occidentale. Voire même du lait, du pas beau, voilà. Mais la notion du beau est toute relative. Hein. Et donc, c'est précisément ça, c'est-à-dire c'est de permettre au public aussi de se questionner sur le sens du beau dans les cultures. Voilà. Le sens du beau, il est différent dans chaque culture. Et ça, c'est intéressant. Et de la même manière que le sens que les imaginaires et cette question du son aborde cette question-là, justement.
Comment on devient ethnomusicologue ? J'ai l'impression d'avoir raté ma vocation. Non, je plaisante.
aujourd'hui, ça se fait relativement assez bien en termes de cursus, puisqu'il existe dans les universités des cursus d'ethnomusicologie. Voilà, donc on peut rentrer dans un cursus d'ethnomusicologie en université, mais quand moi je l'ai fait, ça n'existait pas. Il fallait faire deux cursus, il fallait faire musicologie d'un côté et ethnologie de l'autre, et à un moment donné, on rassemblait les deux. La différence, c'était qu'il fallait avoir eu une grosse expérience de terrain pour trouver du sens à tout ça. Et donc, le principe, c'est qu'un ethnomusicologue, c'est quelqu'un qui fait du terrain, qui va sur le terrain, qui va chercher, qui va se questionner, qui va... Voilà. Et puis, évidemment, faut aimer la diversité culturelle, faut avoir une appétence particulière pour ça, et il faut accepter... Il faut accepter de remettre ses savoirs en question.
On en est à une partie seulement du programme sur les 3 jours de programme du festival Altérité qu'on a à présenter. On va, avant de passer à la deuxième journée, celle du vendredi 18 mars, on va écouter un coup de projecteur faire un rock, le deuxième de la semaine. Il s'agit d'un album de Delia Meschler. Il s'appelle Calling the Unknown. Et après avoir entendu sur les ondes de 666 le morceau Mesmers and Vanish choisi par Seb avec Roxane ce soir, on a décidé que ce sera The Better Half.
Turn off the light all the time. You've got me
C'est mieux si j'ai le micro à portée de main. Je ne sais pas où je l'avais posé. Et... Bref, je l'ai à nouveau et on va pouvoir continuer à parler du festival Altérité. Festival où il y a beaucoup question d'ethnographie, c'est le thème central, mais tout particulièrement des chamans au pluriel. Au final, on voyage où dans cette édition et là, cette fois-ci, je m'adresse à Elena Tataruk. Les différents pays ou les différentes ethnies qu'on rencontre.
On voyage beaucoup de la Sibérie, donc notamment là avec Xenia Pimenova. Nous allons également aller en Mongolie avec Laetitia Merli qui sera là à trois reprises à l'occasion du festival. Le vendredi pour son film Shaman Tour à 14h. Le samedi à 14h également pour la projection de son film Aujourd'hui les chamans et pour un atelier au tambour à 15h30 ensuite. Donc Sibérie, Mongolie, Malaisie, Indonésie, pardon. Indonésie, avec la projection de Maya Saad, l'Ange des Ombres, de Martine Journet et Gérard Nougarol, le vendredi.
Et on va s'arrêter justement sur cette projection de Maya Saad, l'Ange des Ombres, de Martine Journet et Gérard Nougarol. Je crois d'ailleurs que vous nous avez préparé un petit sujet à diffuser à l'antenne ce soir, Karine Le Petit.
Oui, parce qu'on a un partenariat en fait chaque année avec l'INSPE, donc les masters médiation culturelle et enseignement de Caen, dirigé par Magali Janin. Et on prend le temps de rencontrer les étudiants, de leur faire une petite sensibilisation à l'ethnographie et on leur demande de porter leur regard sur un film en particulier. Donc cette année, c'est le film Maya Saad, donc de Martine Journet et Gérard Nougarol, qui se passe en Indonésie, et qui est un film qui est particulièrement intéressant sur l'influence que peuvent avoir les Américains pentecôtistes qui viennent faire du prosélytisme sur des terres chamaniques.
Non, pas encore à Caen. J'ai cru voir parfois un peu de prosélytisme aussi à Caen, mais, oui. Mais pas des mêmes personnes.
Et là, au sein d'une même fratrie, en fait, on a une sœur et un frère qui perdent un peu pied dans leurs croyances l'un et l'autre, voilà, qui ont pour fondation leur repère chamanique, et le frère va essayer d'influencer sa sœur vers le pentecôtisme.
D'accord.
Donc on a travaillé notamment avec Zoé Champeau, qui est une des étudiantes et qui nous a proposé un podcast.
Elle est étudiante où ?
En master médiation culturelle et enseignement à l'INSPE de Caen.
Dédicace à cet établissement.
Zoé Champeau, critique du film Maya Saad, l'Ange des Ombres. Après avoir visionné le film Maya Saad, l'Ange des Ombres, réalisé par Martine Journet et Gérard Nougarol, ma réaction a été directe. Ok, tout ça c'est très éloigné de ce que je connais. J'ai grandi au sein d'une famille athée, je n'ai eu aucun rapport de près ou de loin avec la religion, exception faite à mes cours de religion au lycée allemand dans lequel j'ai étudié pendant quelques mois. Je ne peux donc pas dire que je m'y connaisse, même si ça a pu attiser ma curiosité à plusieurs reprises. Jusqu'à ce film. Les coutumes et les croyances qui y sont dépeintes durant 1h45 ont vraiment retenu mon attention. Le film, pour vous en faire un bref résumé, se concentre sur les Wana, une population forestière dont la plupart sont des chamans. Et pour ceux qui ne le sont pas, ils croient très fort aux coutumes spirituelles de la communauté. Parmi leurs croyances, on trouve le remède de Dieu, le souffleur de blessures, ou encore les esprits Waliya. Les esprits Waliya, c'est ceux des morts qui chantent dans la montagne. Ils pratiquent aussi toutes sortes de rituels et croient en Satan. Satan qui peut soit décider d'être un allié, soit dévorer vos enfants. Mais ils sont contre les rituels chrétiens, rituels imposés par les missionnaires, qui essaient de les évangéliser. Pourtant, les enfants sont scolarisés. Et ceux qui vont à l'école, ce qui est un grand plus pour l'alphabétisation, reçoivent une éducation chrétienne. Mais les générations qui n'y ont pas eu accès et qui ont été élevées avec les croyances chamaniques n'y sont pas forcément favorables. Ce désaccord engendre un écart majeur entre les générations, parce que les plus jeunes n'adhèrent pas toujours aux croyances des anciens. Le risque, c'est que les croyances ne se perpétuent pas de génération en génération. D'ailleurs, il y a un passage du film qui présente l'école. C'est le seul moment où l'on voit l'application d'une autre religion que celle des chamans. Je note aussi que tout le long du film, ne nous sont montrées que des personnes qui pratiquent et croient aux croyances de la communauté. Mais la question que je me pose, c'est où sont les personnes qui n'y croient pas ? Y en a-t-il ? Le sujet phare de ce documentaire, et celui qui a le plus attiré mon attention, comme vous avez dû le comprendre, c'est la façon dont cette communauté gravite autour de croyances et coutumes ancestrales. J'ai d'ailleurs pu noter quelque chose d'intéressant. La chamane qui apparaît à l'écran est une femme, On s'aperçoit donc que ce peuple se place loin de nos idées conçues, c'est-à-dire un peuple genré dans lequel l'homme aurait une place centrale. Ici, les chamans peuvent aussi bien être des hommes que des femmes. Chacun est légitime. Tout au long du documentaire, on assiste à divers témoignages des membres du peuple Wana, racontant la place des croyances et coutumes au sein de leur communauté. Pourtant, j'ai aussi pu remarquer que la plupart de ces témoignages sont différents. En effet, chacun possède sa propre version et sa propre représentation des croyances communes. Il existe vraisemblablement un livre qu'on voit dans un des passages du film. Dans ce passage, ils sont trois à discuter de ce qu'il y est écrit dans ce qui s'avère être leur livre religieux. Mais encore une fois, ils ne sont pas tous en accord. Il semble que dans ces coutumes, comme dans beaucoup d'autres religions, l'interprétation des textes écrits diffère d'un individu à l'autre. Il y a d'ailleurs quelque chose dont je n'ai pas parlé. Le documentaire tourne beaucoup autour d'Indopino, la chamane dont j'ai précédemment parlé. Indopino, donc, a été initié au chamanisme par son frère aîné, Apatungi, qui lui-même, au gré des migrations de clans, s'est converti au pentecôtisme. On assiste alors déjà à des différends liés aux croyances. Dans ce documentaire, j'ai fait face à un fait culturel que j'ai qualifié en premier lieu d'extrême, car si loin de ce que je connais, mais que je requalifierais avec le recul d'inhabituel. Ce qu'il ne faut, bien entendu, pas interpréter comme étant quelque chose de négatif. J'ai trouvé ce film très intéressant, car il nous emmène au cœur d'un peuple avec des coutumes et des croyances bien loin de notre quotidien. C'est des paysans, quoique très longs, il est difficile de garder sa concentration durant les 1h45 que dure le film. S'il peut sembler vite long, il nous emmène tout de même dans l'intimité et le quotidien de cette communauté pour nous permettre d'en apprendre davantage sur leur mode de vie et surtout sur leurs croyances chamaniques. Mais si vous vous attendez à un documentaire interactif, c'est pas le cas. Il ne se passe pas grand-chose. Il s'agit majoritairement de témoignages et on en oublierait presque les deux réalisateurs cachés derrière la caméra. On ajoute à ça les sous-titres qui demandent une certaine concentration, qui ne permet pas de suivre en même temps les images, les discours et qui épuisent rapidement le regard. Malgré tout cela, à travers ce documentaire, le spectateur fait face à un phénomène de dissonance cognitive, ce qui signifie faire face à un fait culturel dérangeant auquel on n'est pas habitué. Car oui, comme vous avez pu vous en douter, ce film présente des faits inhabituels dans nos sociétés occidentales. Faits qui ébranlent le socle et les représentations sur lesquelles nous nous construisons. Pour finir, ce qu'il faut retenir, à mon sens, c'est que cette expérience interculturelle nous mène à expérimenter l'altérité et à s'ouvrir à l'autre. C'est ça qui est intéressant.
Merci à Zoé Champeau, étudiante en master médiation culturelle. C'est bien ça, Karine Le Petit ?
Oui, à l'INSPE de Caen.
C'est l'établissement qui est... Ça veut dire...
Alors, je ne sais pas, ils ont changé de... d'acronyme régulièrement. INSPE...
SP ou INSPE ? Bon.
Bon. C'est devenu INSPE, okay. Ça a été l'ESPE. Bon, on ne va pas revenir jusqu'à l'école normale, mais c'est l'ancêtre...
Moi, j'en étais resté à l'ESPE, autant pour moi.
Non, c'est l'ancêtre, c'est l'école normale. Donc, ce n'est pas du tout des étudiants en ethnographie.
Non.
Donc, ils ont vraiment découvert un univers qui leur est totalement inconnu.
Par contre, ce sont des étudiants qui peuvent être amenés à...
faire de la médiation.
Voilà, et à transmettre aussi cette curiosité que vous avez et que vous avez envie de transmettre à travers le festival Altérité qui se déroule jeudi, vendredi et samedi à Caen, à la fois à la bibliothèque Alexis de Tocqueville et au Cinéma Luxe à Caen. Eh bien, il est déjà presque 19h, alors je vais aller un peu plus vite pour la suite du programme. On peut dire que... Alors déjà, on rappelle que l'étudiante qu'on vient d'écouter, Zoé Champeau, elle évoque ce film « Mayasa, l'ange des ombres » qui va être... projeté à la bibliothèque Alexis de Tocqueville vendredi à 15h45. C'est un film de Martine Journet et Gérard Nougarol. Une rencontre avec la réalisatrice est prévue ?
Oui, la réalisatrice, mais en visioconférence.
Ensuite, à 18h, toujours à la bibliothèque Alexis de Tocqueville, il y aura une table ronde avec différents ethnologues spécialistes des chamanismes. On aura le samedi 19 mars une projection d'un extrait du film « Aujourd'hui, les chamans » de Laetitia Merli à la bibliothèque Alexis de Tocqueville à 14h. Ensuite, dans le même lieu, atelier voyage au tambour avec Laetitia Merli. Attention, il y a seulement 15 places, donc c'est sur réservation. Et puis, on a une mise à disposition de casques de réalité virtuelle pour le visionnage du film Ayahuasca de... est-ce que vous pouvez m'aider ?
Yann Kounen.
Voilà, ça c'est à 15h25, samedi. On enchaîne avec la projection du film Esprit des Trois Sommets de Ksenia Pimenova.
Qu'il faut voir absolument.
Elle sera présente ?
Oui, Ksenia Pimenova sera là.
De quoi parle le film, globalement ?
d'une chamane, d'une femme chamane en République de Touva. Et Ksenia Pimenova est absolument passionnante. Elle peut parler justement des emprunts entre bouddhisme, chamanisme, de toute cette porosité.
C'est à 17h. Et on termine à 20h samedi au Cinéma Luxe pour la projection du film L'étreinte du serpent, qui est à la réalisation. Je pose la question à Elena Tataruk.
Alors oui, la dernière destination chamanique du festival sera l'Amazonie, le nord-ouest amazonien en Colombie, avec donc El Abrazo de la Serpiente, qui est l'étreinte du serpent, du réalisateur colombien Ciro Guerra, qui est sorti en 2015. C'est une œuvre de fiction, mais qui s'inspire des récits de deux scientifiques au début du XXe siècle. Un biologiste et un ethnologue à une trentaine d'années d'intervalle qui vont rencontrer le même chaman, Karamaté. Et ces deux scientifiques-là sont portés par la même envie de chercher, de découvrir une plante psychotrope qui est la Yacruna. Et donc on va les suivre dans ces voyages initiatiques. Donc en plus du propos extrêmement intéressant, c'est un film avec une qualité de photographie exceptionnelle, une profondeur d'image en noir et blanc et de son également. Donc c'est un peu une œuvre complète, hypnotisante.
Rencontre avec Oscar Iván García.
Tout à fait, qui est lui anthropologue, spécialiste de cette région de l'Amazonie, qui nous en dira un peu plus sur le chamanisme amazonien.
Ça, c'est donc samedi à 20h au Cinéma Luxe pour conclure le festival Altérité. On peut voir sur des flyers ou affiches 17, 18, 19, 20 mars. Mais non, il ne faut pas attendre dimanche pour en profiter. On est finalement sur le 17, 18, 19 mars. Un beau programme à retrouver sur le site web festivalaltérité au pluriel.com. Comme merci beaucoup à Elena Tataruk qu'on vient d'écouter. Vous êtes chargée de mission au patrimoine immatériel et ethnologique à la Fabrique de patrimoine en Normandie. Merci également à Karine Lepetit, responsable de l'ethnopole de la Fabrique de patrimoine en Normandie.
Merci.
Et Jean-Claude Lemenuel, ethnomusicologue, qui m'a donné très envie de me rendre jeudi soir au Luxe à Caen. Et puis on avait aussi le plaisir d'accueillir un service civique, un jeune en service civique à la Fabrique de patrimoine. Rappelle-moi.
Titouan Bûcher.
Et j'imagine que voilà, ça te fait une belle expérience à rajouter sur le CV, ça.
Ah oui, c'est ça. Moi, je suis pas ethnologue du tout, mais c'est toujours très intéressant de me confronter à cet univers-là.
Le mot de la fin pour Karine Lepetit.
Alors, je voulais dire qu'on avait une chance fabuleuse d'avoir un ethnomusicologue en Normandie, de la pointure de Jean-Claude Lemenuel, parce qu'effectivement, l'ethnomusicologie, c'est aussi passer beaucoup, beaucoup de temps sur le terrain. Donc non seulement il a une connaissance encyclopédique des choses, mais aussi des choses qu'il a expérimentées et qu'il est capable de nous transmettre avec beaucoup de passion. Et voilà, je voulais juste dire qu'on avait beaucoup de chance de travailler avec lui.
Et hors antenne, il semblait aussi que, à côté de nous, des personnes me disaient qu'ils avaient la chance de vous avoir depuis maintenant 5-6 éditions. En tout cas, vous n'en avez manqué aucune.
Parce qu'elle ne parle jamais. Elle ne parle jamais d'elle-même. Mais en fait, c'est la personne qui est dans l'ombre de la continuité de ce festival depuis des années. Voilà. C'est-à-dire que si ce festival existe aujourd'hui, c'est véritablement parce qu'il y a quelqu'un à l'Ethnopole qui y croit, qui se donne les moyens de le construire et qui se donne les moyens de trouver. Donc voilà. Donc elle n'en parlera pas, mais moi je le dirai à sa place, effectivement. Elle est le fil d'Ariane du festival ethnographique.
Bon, bah là, finalement, ça sera ça le mot de la fin. Le festival Altérité, festival de cinéma et d'ethnographie. Jeudi, vendredi et samedi à Caen, le programme sur festivalaltérité.com. Encore merci, puis aussi de nous avoir accueillis. Ça, c'est toujours très appréciable pour une
radio
locale d'être en déplacement et merci. D'être si bien accueilli. On peut maintenant terminer avec, oui, il y avait bien des cadeaux pour ce soir. Donc maintenant, vous avez 2-3 minutes pour rappeler. Est-ce qu'il y a du monde au moins à la radio ? Prêt. Voilà, Tony, il est prêt à répondre à la radio. Tony, on compte sur toi, si tu nous entends. Il y a quelque chose qui s'appelle un téléphone qui, au lieu de sonner, va peut-être juste flasher, parce que chez nous, à la radio, les téléphones flashent. Donc, c'est qu'un auditeur ou une auditrice tente de gagner sa place pour la soirée Vignon, je crois que c'est Vignon, au Big Band Café. Là, je parle sous contrôle du directeur du phare et il me dit oui, oui, c'est bien ça. Ça me rassure tout de suite.
Une soirée électro-hardcore, effectivement, ouais. Organisée par, par plusieurs collectifs.
Oui, ouais, plusieurs collectifs. La dernière en date, il y a eu une soirée au Cargo à Caen. Il y avait de l'électro, de la techno. Et effectivement, quand c'est hardcore, parfois c'est très très hardcore. Alors je sais pas ce qu'il en sera au
Là, café. C'est le cas puisque les cinq collectifs qui composent Union, qui est un regroupement de cinq collectifs.
Ah, c'est Union, d'accord.
Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est parce que c'est un V, voilà.
Ah,
c'est,
oui.
Voilà.
Je sais pas si regroupe dans l'électro cinq, a toujours remplacé le U par le V.
Ça regroupe cinq collectifs qui sont plutôt dans cet univers-là.
Ok. Voilà. Parmi les artistes, il y a Martin de Caen. Bah oui, dédicace à Martin de Caen, qui est animateur sur 666. Vous l'écoutez mixer dans le cadre de Black Moon, qui est juste après. Balance ta prog, donc vers 22h30, vous pouvez l'entendre. Et surtout ces derniers temps, eh bien, il a des singles, des compos qui sont sortis. Je vous invite à écouter Éminence et puis plus récemment Abdication. C'est tout de suite maintenant si vous voulez gagner une place. 02-31-94-66-66. 02-31-94-66-66. Et ça se passera ce samedi au Big Band Café. On en parle un peu plus. On en parle un peu plus d'Union. Au Big Band Café, dans Balance ta prog, et d'ailleurs on aura un artiste invité dès 20h30. Un extrait d'Abdication de Martin de Caen et on parle un peu plus en détail de la soirée Union au Big Band Café dans Balance ta prog à 20h30. À toutes.
Écoutez, je ne me sens pas bien du tout, alors si vous voulez, nous reprendrons ça demain, hein. Et puis alors, moi, je vais me coucher.
19h, c'était les news, c'est toujours l'apéro, seul 666, c'est à consommer sans modération. Les apéro news, c'est avec Audiothèque.